Certains se disent, qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Oh. C'est simple, le titre est « Qui est Jésus pour les musulmans ?» Bon, il est vrai que pour un culte de Noël, on aurait peut-être pensé à quelque chose d'un petit peu différent. Mais écoutez, si je ne prêche pas cela maintenant, je risque de ne pas le prêcher avant des mois. Alors, on a beaucoup quand même entendu parler des musulmans, on a beaucoup entendu parler de l'islam, et je me suis dit, bah, tiens, c'est vrai que nous sommes en train de fêter Noël, et on pourrait se poser la question, qui est Jésus pour les musulmans? Si vous avez parlé avec un musulman, vous, et que vous lui avez dit, mais dis-moi là, à part Mahomet, Jésus, et peut-être que vous avez entendu ce musulman dire, bah oui, Jésus quoi? Oui, moi je crois que Jésus a existé. Et là, en général, le chrétien est un petit peu désarçonné, il ne s'attend pas à cette réponse, et c'est peut-être le moment d'apporter quelques réponses. Il est évident que le sujet pourrait être traité beaucoup plus profondément, mais ça n'est pas l'objectif ce matin. Mais en tout cas, je pense que l'on aura quand même quelques réponses. Alors, qui est Jésus pour les musulmans? Eh bien, je vais tout de suite vous donner certaines choses que les musulmans croient au sujet de Jésus. Ils conviennent que Jésus était un messager envoyé par Dieu. Ils conviennent également que Jésus est la parole de Dieu. Que Jésus a une naissance miraculeuse, née de la Vierge Marie. Là, tout d'un coup, j'ai l'impression que, si vous voyez vos visages, continuez à sourire. Certains, ils ne savent plus que penser, là. Jésus, ils pensent que Jésus a fait preuve de compassion et de miséricorde, qu'il a guéri les malades et ressuscité les morts. Ils pensent que Jésus a fait des miracles, notamment pour la nourriture. Ils pensent que Jésus a échappé à la mort. Mais là, il y a une nette différence entre ce que le Coran dit et ce que la Bible dit. Jésus est monté au ciel, il est vivant aujourd'hui. Pour certains qui se posent des questions, sourate 3, 55, acte 1 pour nous. Parce que pour chaque chose que je vous dis, j'ai des versets aussi bien du Coran que de la Bible. Ils pensent également que Jésus va revenir sur terre, sourate 43, 61. Ils pensent également que la mère de Jésus ne devrait pas être adorée, sourate 5, 116, Luc 4, 8 pour nous. Et ils pensent que la croix implique une substitution, mais ça, il faudrait voir autre chose. Alors, à vrai dire, j'ai lu les écrits du père François Jourdan, et il a écrit un article pour expliquer que l'islam n'est pas une religion biblique. Et je trouve qu'il a eu beaucoup de courage. Il a été délégué auprès de la communauté musulmane, donc il a pu étudier ce qu'il pense. Et il a écrit ceci, il dit « Quelle foi et de quel Abraham, Ibrahim, puisque nous n'avons pas le même monothéisme ? Il est vrai, il est temps d'être vrai avec les musulmans et aussi avec les chrétiens eux-mêmes. L'amour du prochain ne peut pas s'accommoder d'erreurs doctrinales majeures, y compris par une complaisance qui masque sans doute une peur mutuelle inavouée et qu'il faut arriver à dépasser ensemble. Non seulement cela n'empêche pas le dialogue, mais au contraire cela le permet. Car le dialogue est reconnaissance d'une altérité consistante et d'un partenariat dans une volonté de trouver et de bâtir ensemble les chemins de la paix et de la vie. » Voilà, je viens donc de citer l'auteur de l'article en question. Alors, on pourrait se dire, mais finalement, il y a beaucoup de points avec lesquels les chrétiens et les musulmans seraient d'accord. Alors, pas tous, parce qu'il y a certains, si on revenait, on pourrait voir qu'il y a quand même des divergences, même si la phraseologie, je dirais, semble identique. En revanche, il y a un point qui est vraiment une pierre d'achoppement entre, dans la discussion, quand on arrive à parler de Jésus avec un musulman, c'est qu'un musulman ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et ça, c'est clair. Alors, est-ce important de croire que Jésus est le Fils de Dieu? Je vais vous lire quelques versets ici, oui, parce que 1 Jean 5, 2 à 5 dit « À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Si nous aimons Dieu et mettons en pratique ses commandements, car voici ce qu'est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est fils de Dieu ?» Donc ça veut dire que celui qui refuse de croire que Jésus est le fils de Dieu, eh bien, n'arrivera pas à vaincre tout ce qui se présente à lui dans ce monde. Et puis il y a encore plus, 1 Jean 5, versets 11 à 12, dit « Et voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. » Qui a le Fils a la vie, qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc c'est très facile de savoir si maintenant vous avez la vie éternelle ou pas, c'est « Avez-vous le Fils ? Avez-vous reconnu que Jésus a été envoyé par le Père, qu'il est mort sur la croix ? À notre place, nous aurions dû être sur la croix à payer pour nos péchés. Jésus a pris notre place, il a payé, c'est-à-dire qu'il est allé là où nous aurions dû aller si nous avions gardé cette dette de péché envers Dieu, c'est-à-dire en enfer. » Et quand il a fini de payer le prix en enfer pour nos péchés, eh bien, il est sorti de l'enfer victorieux. Et cette victoire, il nous l'a donnée. Si bien que chaque personne qui a accepté Jésus dans sa vie n'ira jamais en enfer. Le seul enfer que vous connaîtrez, c'est ce qui se passe sur cette terre. Le seul ciel que connaîtra celui qui refuse le sacrifice de Jésus, est aussi sur cette terre. 1 Jean chapitre 4, versets 14 à 15 nous dit « Et nous témoignons, pour l'avoir contemplé, que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Alors, on peut voir, bon, ça je passe rapidement, hein. Il y a tellement d'autres versets qui nous parlent de la vie qui est dans le Fils et que quand Jésus a été envoyé sur terre, il a été envoyé comme faisant partie intégrante de la Trinité, comme étant le Fils de Dieu. Alors, on pourrait dire, comment se fait-il qu'un musulman croit autant de choses concernant Jésus qu'il croit qu'il est un prophète, pas le Messie, tel que les Écritures le définissent, mais un prophète. Eh bien, parce qu'il y a deux idées très importantes qui remontent à la surface quand on parle de Jésus en tant que fils de Dieu, ce qui est inconcevable pour un musulman, c'est que Dieu est si grand qu'il est inconcevable qu'il puisse s'incarner dans un homme. Et c'est dans une de leurs sourates, la 112, qui dit « Dites, il est Allah unique, Allah seul, il n'a pas enfanté et il n'a jamais été enfanté, nul ne lui est égal ou semblable. » Et puis la deuxième conception qui est inacceptable pour un musulman, c'est la conception coranique de la Trinité, paraît comme une conception de triade. Triade composée d'Allah, Dieu, de Marie l'épouse et de Jésus leur fils. C'est-à-dire que quand on parle de la Trinité avec un musulman, il faut savoir que c'est ce qu'il comprend dans sa tête. Voilà la définition de la Trinité. Et cette Trinité est condamnée par le Coran. Il ne cite jamais la Trinité telle qu'elle se présente dans la Bible. Pourtant, au 7e siècle, année de la rédaction du Coran, cette Trinité était déjà établie et répandue partout, de l'Asie en Europe, en passant par l'Arabie. Alors, il croit que la Trinité, c'est Dieu, Marie et Jésus. Et que donc, dans leur tête, bah oui, il n'est pas possible que Dieu, aussi grand qu'il soit, eh bien, se soit uni à une femme pour qu'il y ait un fils Jésus. Alors oui, Jésus est le fils de Dieu, non pas parce qu'il y aurait eu une conception physique telle que nous l'entendons entre Dieu le Père et Marie, mais Jésus est fils de Dieu comme il l'est, pas comme il l'est d'un père terrestre, mais parce qu'il porte en lui l'image même du Père. Alors, c'est un peu comme quand ils disent, oui, mais on ne peut pas dire qu'il est fils de Dieu. Cela veut dire que si on dit qu'il n'est pas fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Alors, dans ces cas-là, il y a l'expression dans la Bible qui parle de Jésus en tant que fils de l'homme. Est-ce à dire que Jésus n'est jamais venu comme un homme ? Voilà, ça c'est une petite réflexion sur laquelle je sens plusieurs devront revenir. Mais c'est OK. Exactement comme Judas, dans Jean chapitre 17, verset 12, il nous est dit que Judas était appelé le fils de la perdition. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire qu'il avait en lui toutes les caractéristiques de la perdition, c'est-à-dire de la ruine. Il n'était pas le fils de la perdition tel qu'on pourrait dire engendré d'eux, mais il portait en lui la nature de la perdition. Quant à Jésus, il nous est dit dans Hébreux chapitre 1, verset 3, « Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. » Une autre version dit « Ce Fils est resplendissement de sa gloire et expression de son être. » Une autre version encore dit « Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité. » C'est pour cela que quand Philippe a dit à Jésus « Montre-nous le Père », eh bien Jésus a dit « Toi qui m'as vu, tu as vu le Père. » Dans Matthieu chapitre 11, je vous le lis verset 27, « Toutes choses m'ont été données par le Père, dit Jésus, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Confesser que Jésus est le Fils incarné de Dieu ne revient aucunement à diviniser un homme. Ce n'est pas Jésus homme que nous adorons pour en faire un Dieu. Jésus est Dieu et il s'est fait homme. Est-ce que l'on voit la différence ? Alors, pourquoi est-ce que nous disons, comme nous le trouvons dans les Écritures, que Jésus est Fils de Dieu ? Eh bien, c'est parce qu'il est l'empreinte de Dieu qui est devenue visible aux hommes. Dans Jean chapitre 1, vous êtes content d'être venu au culte ce matin ? Vous êtes content que ce soit enregistré ? Et je survole hein, le sujet, hein. Mais en même temps, c'est ambiant, le sujet est ambiant. Jean 1. Je ne vais pas vous faire un cours de théologie ce matin, même si certains ont l'impression, mais non. Juste, je sais que vous allez en tout cas repartir avec une idée générale. C'est que la Trinité n'est pas définie de la même manière et que oui, un musulman croit à Jésus. La vraie question est, à quel Jésus ? Et c'est exactement la même chose vis-à-vis d'un mormon, vis-à-vis d'un témoin de Jéhovah, quelqu'un qui est dans la scientologie, etc. Alors Jean 1, versets 1 à 14, et 14, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » Au verset 14, il est dit « La parole qui était Dieu. » Je rajoute cela, « Qui était Dieu ?» Il est dit « La parole a été faite chair. » Donc on sait que la parole qui était Dieu au verset 1 est Jésus parce qu'elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous, au milieu des hommes. Le verbe c'est, vient, si vous voulez, c'est le mot tabernacle transformé en verbe. Elle a tabernaclé. Quelqu'un dit, c'est pas français. Tout le monde le sait, seulement tout le monde a compris, non? D'accord. Est-ce que c'est OK d'inventer des mots nouveaux? Moi, je suis pour. Vous savez, on entend, oh, c'est grave, ça me plaît grave, ça me plaît grave. Voilà, ça, c'est un mot nouveau pour moi, tel qu'il est employé. Alors là, la parole a tabernaclé, elle a habité. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et le mot pleine de grâce, le mot plein, veut dire plein au point qu'il n'y a plus de place pour autre chose. Si tu trouves Jésus, tu trouves tout ce qui a à voir avec la grâce et tu trouves toute la vérité. Toute la vérité est contenue en Jésus. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 1 et 2, il est dit « Amis très chers, ne croyez pas tous ceux qui disent « Nous avons l'Esprit Saint », mais examinez-les avec attention pour voir si ces gens ont vraiment l'Esprit de Dieu. En effet, beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui affirment « Jésus-Christ est vraiment devenu un être humain », ceux-là appartiennent à Dieu. Les chrétiens ne croient pas à une élévation d'un homme au rang de Dieu, ce qui sous-entendrait de diviniser un homme, mais nous croyons que Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Il s'est rendu visible, il s'est manifesté. Et c'est pour cela que si tu veux connaître ce que Dieu veut, ce que Dieu pense, observe la vie de Jésus dans les évangiles. Juste une question, est-ce que Jésus a déjà donné la maladie à quelqu'un? Alors comment peut-on entendre aujourd'hui que le Père enverrait la maladie aux siens? Ça n'est pas possible, ça, mes amis. Dans Luc chapitre 1, verset 35, donc déjà nous avons vu que Jésus a pris une forme, Dieu a pris une forme humaine. Mais ensuite, il nous est dit dans Luc chapitre 1, verset 35, comment il a été conçu. L'ange répondit à Marie. Marie était une jeune femme qui n'était pas parfaite. On pourrait dire, waouh, pasteur, comment peux-tu oser dire cela? C'est simple, parce qu'elle a reconnu en Jésus le Messie, le sauveur d'Israël et le sauveur des hommes. Elle a elle-même été au bénéfice du sang de l'agneau. Et la Bible nous dit qu'après, elle-même, avec les 120 dans la chambre haute, a été remplie du Saint-Esprit au point de parler en langue. C'est écrit, c'est extraordinaire. Comme nous. Pourquoi a-t-elle été choisie? C'était un acte souverain de Dieu. En tout cas, moi, j'ai hâte de la rencontrer. J'ai hâte d'entendre comment s'est passée cette visitation quand l'ange lui a rendu visite, ce messager envoyé de Dieu qui lui a apporté un message qui allait changer l'histoire de l'humanité. L'ange lui répondit donc à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Est-ce que quelqu'un ici dans cette salle a déjà expérimenté le Saint-Esprit qui vient sur soi? 4 personnes seulement. Et quand le Saint-Esprit vient sur toi, mon ami, tu ne peux pas dire « je ne sais pas ». Quand le Saint-Esprit vient sur toi, quelque chose va prendre place en toi. Quelque chose va naître en toi. Un rêve va prendre naissance. La puissance de Dieu va te rendre capable d'eux. Et il est dit ici, « Et la puissance du Très-Haut te couvrira comme d'une ombre, c'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. » Pourquoi est-ce que Jésus est appelé le fils de Dieu? Il n'est pas, Marie n'est pas la mère de Dieu, parce que Dieu l'a créé, Dieu est son créateur, Dieu le Père est le créateur. En revanche, oui, Marie est la mère de Jésus, dans ce sens qu'elle a prêté son corps à Dieu, pour que par la puissance du Saint-Esprit, Dieu devienne homme. Maintenant, pourquoi est-ce que Joseph n'est pas le père de Jésus? parce que le sang vient du Père. Et que le Père de Jésus, c'est Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas Joseph, c'est Dieu. Donc, dans quelle trinité croyons-nous? Dans celle qui est définie dans les Écritures. Alors, les témoins de Jéhovah disent, oui, mais tu sais, on ne trouve pas le mot trinité dans les Écritures. C'est vrai, comme on ne trouve pas le mot enlèvement. Pourtant, l'Église parle de l'enlèvement de l'Église. Néanmoins, le concept de la trinité apparaît de plusieurs manières dans les Écritures. Jésus est bien le Fils de Dieu. Oui, les musulmans croient qu'il est un des prophètes. Il l'honore de différentes manières. Ceci dit, la Bible dit que celui qui ne reconnaît pas Jésus comme Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Et ça, c'est grave. Et ce qu'il faut, c'est expliquer que la définition de la Trinité n'est pas Dieu, le Père, Marie et Jésus, mais c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Eh bien, avec un message aussi léger que celui-ci, nous allons... J'ai tellement de choses encore à dire, mais il me semble que l'essentiel a été dit et on doit prier pour les musulmans. Les musulmans, ce sont des gens que je trouve très, très diligents, des gens que je trouve très, très engagés, très fidèles, des gens qui ont tellement la notion de Dieu, pas le Dieu de la Bible, le Dieu qui est dur et qui tue. Mais c'est tellement inculqué chez leurs enfants qu'ils rêvent d'habiter auprès de lui. Alors oui, évidemment, il y a les 70 vierges et tout ça qui viennent se rajouter au bonheur d'être avec Dieu. Mais ça va plus loin que cela. C'est qu'ils sont prêts à se faire insulter pour porter, quand les femmes portent leur voile. Ce sont des gens qui sont très engagés, qui respectent Dieu, mais par peur. Vous savez, quand Jésus est venu, il est venu pour nous montrer que Dieu est un bon Père. Jésus n'est pas venu pour nous donner le choix de passer l'éternité entre sans Dieu en compagnie du diable et avec Dieu en compagnie d'un tyran. Ce n'est pas le choix que nous avons. C'est sans Dieu dans les ténèbres et peste, dont nous avons entendu parler tout à l'heure, qui était dans le pays de Goshen, ou alors avec Dieu sous un règne d'amour, de quelqu'un qui prend soin de nous, de quelqu'un qui a pensé un futur en deçà de cette terre, d'un Dieu qui est capable de venir dans notre condition, dans notre chair, qui est venu, qui est capable de résister aux pressions que nous connaissons. Parce que la Bible dit que Jésus n'est pas insensible à notre condition humaine. Il la comprend. Pourquoi? Parce qu'il est venu dans un corps tel que le nôtre. Évidemment, pas tout à fait tel que le mien, parce qu'il est venu dans le corps d'un homme. Hein. Mais il est venu, il a marché sur cette terre. Il sait ce que c'est quelqu'un qui est en colère contre vous. Il sait ce que vous ressentez quand quelqu'un est en colère contre vous. Il sait ce que vous ressentez quand quelqu'un vous délaisse. Il sait ce que vous ressentez quand vous êtes tenté de faire quelque chose qui pourrait vous coûter, mais que ça semble tellement plus facile de prendre cette voie-là. Il sait exactement ce que vous ressentez quand vous êtes devant le manque, ou quand vous avez des situations où vous ne pouvez pas vous permettre de faire de compromis. Il sait exactement ce que vous ressentez. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour vivre ces choses, afin que quand nous prions et quand nous disons « Seigneur, voilà ce que je ressens », Jésus dit « Je sais exactement ce que tu ressens. » Et ça, mes amis, eh bien, ça nous donne envie de passer l'éternité avec lui. Parce qu'il est venu pour que, notamment, bien sûr, pour payer pour nos péchés, il est venu pour ressentir ce que nous ressentions dans ce monde de ténèbres, mais pas que. Ça s'appellerait juste de la pitié. La Bible nous dit que Jésus était rempli de compassion. Compassion, ça veut dire, eh bien, ça veut dire que je sais ce que tu ressens et je vais faire quelque chose pour t'en sortir. Ça, c'est la compassion. Je sais ce que tu ressens, c'est juste la pitié. On peut avoir pitié de beaucoup de gens sur cette terre. Mais la compassion, c'est je vais m'impliquer pour te sortir de là. Et Jésus est venu afin de s'impliquer dans votre vie pour vous empêcher d'aller en enfer. Mes amis, vous ne pourrez jamais dire que vous n'avez pas entendu ça. Jamais vous ne pourrez dire que vous n'aviez un choix à faire. Vous avez le choix entre passer l'éternité ou au ciel avec un Dieu qui nous aime et qui nous comprend, ou alors là où Dieu a choisi de ne pas être pour n'enquiquiner personne, c'est-à-dire pour ne pas être le sujet de tourment pour ceux qui ne veulent pas de lui. Et ça s'appelle l'enfer. Mes amis, l'enfer, c'est long. C'est l'éternité. Ça vaut la peine que nous posions quelques questions. Ça vaut la peine que nous prenions le temps de nous interroger. Il y a beaucoup de questions que vous pouvez vous poser maintenant. Qu'est-ce que je vais manger à midi? Où est-ce que je vais? Quel métier vais-je choisir? Est-ce que je vais voir tel ami? Est-ce que je vais voir tel ami? Peut-être que certains sont en train de se demander comment ils vont arranger leur Noël. Là, maintenant, tout de suite, à la seconde même, la question la plus importante que vous puissiez vous poser, c'est où est-ce que je vais passer l'éternité? Parce que la réponse à cette question, ça n'est jamais Dieu qui la donnera pour toi. Dieu ne décide pour personne s'il va passer l'éternité en enfer ou avec lui. Dieu ne décide pour personne. Il nous présente le choix. En 2015, nous avons encore ce choix, nous entendons ce choix, qui nous vient de mille et une manières. À chaque fois que nous voyons le clocher d'une église, cela nous parle d'un choix que nous avons à faire. Vous dites, comment est-ce que je peux choisir de passer mon éternité avec un Dieu qui m'aime autant? Comment puis-je dire à Dieu, implique-toi dans ma vie maintenant, sors-moi de là où je suis, où que ce soit que vous soyez? C'est simple, accepter que Jésus soit bien le Fils de Dieu, quand lui est la vie éternelle et que vous recevez cette qualité de vie, cette qualité de vie qui se trouve en Dieu uniquement, uniquement, gratuitement. Pas par les œuvres, on ne reçoit pas la vie éternelle à cause des bonnes choses que l'on a faites. On ne reçoit pas la vie éternelle à cause des mauvaises choses qu'on n'a pas faites. On reçoit la vie éternelle parce que c'est un cadeau de Dieu. Courbons le front un instant, s'il vous plaît. Père, dans le nom de Jésus, s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui souhaite recevoir cette vie éternelle, je prie afin que par la puissance de Dieu, ils la reçoivent. Vous voulez bien faire cette prière après moi, s'il vous plaît, mon Dieu? Je viens à toi tel que je suis. Je ne suis pas digne de quoi que ce soit, malgré les bonnes choses que j'ai faites ou les mauvaises que je n'ai pas faites. J'ai compris que tu as quelque chose à me donner. Le plus grand cadeau qui soit, ce cadeau va changer mon Noël cette année. C'est ta vie. Ta vie pour l'éternité. J'ai compris qu'elle se trouve en Jésus. Ce Jésus qui est mort sur la croix. Afin que je ne paye pas pour mes péchés. Tu n'as rien contre moi aujourd'hui. Et j'accepte cette union avec toi. Fais de moi ton enfant. Vis en moi par ta nature. Et oui, je veux passer l'éternité avec toi. Parce que j'ai compris que tu m'aimes. Montre-moi qui tu es. Dans le nom de Jésus. Amen.